Informer, c'est l'essence même de notre métier et pourtant des auditeurs nous accusent de désinformation. Bonjour Bruno Denas.
Bonjour Edwige Coupez, bonjour à tous.
Vous êtes le médiateur de Radio France et en cette période agitée, alors de manifestations, de terrorisme, d'affaires politiques, d'affaires de pédophilie, eh bien les journalistes sont donc régulièrement accusés de faire de la désinformation au profit, alors au choix du gouvernement, des manifestants, de l'extrême droite, des anti-religions, etc. Spécialiste des médias et de la politique, directeur de recherche à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, François-Bernard Huyg, vient justement de publier un livre intitulé « La désinformation, les armes du faux ». Et vous l'avez donc invité, Bruno.
François-Bernard Huyg, bonjour.
Bonjour.
Alors, en tant que médiateur, je suis en effet confronté régulièrement aux commentaires, pas toujours très courtois, il faut le dire, d'auditeurs qui estiment que les journalistes font de la désinformation. Alors, pour les uns, nous désinformons quand nous parlons des casseurs, des policiers blessés ou des riverains mécontents. Pour les autres, nous désinformons quand nous évoquons les violences policières, les revendications ou les débats nuit debout. Alors, dans ce cas, ne parle-t-on pas de désinformation parce que l'information déplaît ?
Alors, il y a de ça, et puis par ailleurs, ça n'est pas de la désinformation au sens strict qui suppose la fabrication d'une fausse information qu'on essaie de faire passer par les circuits adverses comme les services soviétiques cherchaient à intoxiquer dans les années 70-80, les services américains, etc. Là, nous parlons d'autre chose, nous parlons d'une hiérarchie de l'information. Vous voyez, il se passe des milliards de faits qui se traduisent dans des milliers de photos sur Internet et des milliers de dépêches. Et évidemment, le journaliste est ce qu'on appelle en sociologie des médias un garde-barrière, c'est-à-dire c'est celui qui va dire quels sont les trains qui vont circuler sur les grandes voies ou sur les petites voies.
On est donc plus dans le militantisme ou dans des opinions partisanes de la part des auditeurs qui ne vont pas dans leur sens ?
Vous n'arriverez jamais à satisfaire un auditeur, quelle que soit son opinion, parce que vous ne laisserez jamais assez de place aux opinions qu'il veut entendre ou aux faits qui vont dans le sens de ses croyances. Donc, le problème est que, quelles que soient ses options personnelles, le journaliste soit capable de dire une opinion et son contraire et de leur donner une certaine représentativité.
Alors en fait, la vraie désinformation, c'est la plaie d'ailleurs du journalisme, parce qu'elle nous piège et qu'elle nous décrédibilise. L'exemple le plus fameux, c'est quand même Bush et ses armes de destruction massive du côté de Saddam Hussein. Et ça, vous l'évoquez dans votre ouvrage.
Oui, je l'évoque, d'autant plus qu'on l'avait suivi en direct avec quelques amis. Nous avions créé un site sur la guerre de l'information en 2004, pendant la Seconde Guerre du Golfe. Et évidemment, il y avait des tas de faits mensongers, de rapports, de photographies truquées, de raisonnements bizarres qui étaient fournis.
On est vraiment dans la fabrication de la fausse information.
Non, alors, qui a été fabriquée. Voilà, quand on dit « nous savons avec certitude par nos services secrets que Saddam Hussein a des laboratoires mobiles, oui, je sais pas, il fait quoi, il fabrique des bombes atomiques ou des armes chimiques », on sait que ça a été fabriqué par des agences de communication, comme les faux camps de concentration serbes pendant la guerre de Yougoslavie, on pourrait citer des centaines d'exemples de crimes imaginaires. Le problème, d'ailleurs,
aujourd'hui, dans l'actualité récente, il y en a aussi des exemples que vous pouvez citer.
Alors, je suis sûr qu'on en trouverait, par exemple, en Syrie, où il y a des accusations. Nous savons très bien qu'en Syrie, beaucoup d'informations sur ce qui se passe là-bas viennent par l'Association syrienne des droits de l'homme, où il y a une très forte implantation des frères musulmans. Je ne suis pas en train de dire que Bachar el-Assad ne commet pas des crimes réels, entendons-nous bien.
Alors il y a aussi, d'ailleurs, puisque vous parlez de Syrie, il y a aussi Daesh, d'ailleurs, et Daesh est quand même très doué dans la propagande et la désinformation.
Oui, alors ils sont très doués dans la propagande parce que, à la fois, ils savent nous terrifier en envoyant des images terribles, d'égorgements en direct, etc. Et en même temps, ils sont capables d'avoir une attractivité extraordinaire. Il y a une partie de leur message qu'on ne cite jamais, où ils disent venez en Irak, venez en Syrie, au pays de Cham. D'abord, c'est une obligation religieuse, la hijra, pour les vrais musulmans. Ils montrent des images fantastiques où tout va bien, où on s'embrasse au marché. Donc, ils sont très très forts. Ils savent faire des films hollywoodiens d'horreur avec des égorgements, mais ils savent aussi s'adresser à ceux qui sont en désarroi pour leur dire, là, vous allez vivre bien, suivant la loi, avec des amis qui vous protégeront.
On ne sait pas vraiment lutter contre ça.
On ne sait pas, enfin en tout cas on n'a pas su jusqu'à présent parce qu'on a utilisé des méthodes de réfutation, copiées des Américains d'ailleurs, Think Again, Turn Away, Stop Jihadism, etc. Où on dit aux gens qui seraient tentés par la radicalisation, faites attention, si vous allez là-bas, vous allez mourir et vous risquez de tuer des gens. Mais ils vont là-bas pour mourir et pour tuer des gens. Et par ailleurs, ça ne me paraît pas extraordinairement efficace que le gouvernement paie des gens pour produire des vidéos et aller sur Facebook pour dire à un public jeune la même chose que le JT du soir qui montre que Daesh commet des crimes épouvantables. Ce qui perturberait beaucoup les djihadistes, ça serait soit de profiter du fait qu'ils sont sur les réseaux sociaux, donc on peut les infiltrer, prendre de fausses identités, leur balancer de fausses informations, ou se moquer d'eux. Ça a l'air absurde ce que je dis, mais l'ironie, se moquer d'eux, mettre... Il y a par exemple eu des internautes qui ont mis des têtes de canard sur des images d'exécution, ou d'autres qui prennent des noms comiques comme à bout de ficelle, à bout de nerf, etc. Et ça agace énormément les djihadistes, ça perturbe leur réseau. Alors, il y a une autre méthode, c'est la méthode russe. On fait un concert à Palmyre pour montrer qu'on a gagné. Ça aussi, ça les énerve.
Et en deux mots, puisqu'on parlait d'Internet, il y a aussi quand même tout le réseau des théories complotistes et autres qu'on retrouve, et ça, c'est de la vraie désinformation.
Alors, c'est de la vraie désinformation ou c'est du délire logique, parce que ça part de quelque chose de bien, qui est de mettre en doute l'information officielle, de regarder si ça ne sert pas les intérêts de quelqu'un, etc. Et ça vire vers quelque chose de délirant, qui est d'imaginer qu'il y a des hommes cachés dans une cave, qui dirigent le monde avec des gouvernants, des journalistes à leur service. Ce qui, je dirais, malheureusement, ce n'est pas vrai, parce que si tous les malheurs du monde venaient de quelques gars dans une cave, on pourrait les renverser.
François-Bernard Wyg, merci pour toutes ces précisions. Je vous rappelle que vous êtes l'auteur de « La désinformation, les armes du faux » qui vient de paraître chez Armand Collin.
Merci messieurs, merci Bruno Denas, médiateur des antennes. On vous retrouve samedi prochain. Les auditeurs peuvent vous écrire d'ici là sur votre site médiateur.radiofrance.fr et il y a aussi Facebook et Twitter.